Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon jeudi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette derrière le micro qui vous accompagne au cours de ces prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Pour différentes raisons, il y a certains enfants qui ont de la difficulté à soit rester tranquillement assis, à se concentrer, à faire leurs devoirs et leurs leçons de façon attentive. Et bien sûr, ça peut avoir de nombreux impacts sur leur apprentissage scolaire, sur leur développement, leur épanouissement. On le sait, hein, l'année scolaire achève, c'est les examens, la période des examens qui arrive. Il y a le stress en plus qui se mêle à tout ça. Heureusement, pour les parents qui pourraient être un petit peu inquiets, il existe des outils, des stratégies pour développer la capacité d'attention et de concentration chez l'enfant. Et en deuxième partie d'émission, Josiane Caron-Santa, elle qui est ergothérapeute, sera là pour nous en glisser un mot. Et elle est également, je tiens à le dire, l'auteure d'un outil visuel expert en concentration qui pourrait intéresser les parents qui vivent avec des enfants qui ont un petit peu mal à se concentrer. Et d'abord, vous dire que des livres de cuisine, bon, probablement que vous en avez plein votre bibliothèque. On le sait depuis quelques années, il y en a beaucoup sur le marché, probablement parce qu'il y a beaucoup de demandes. Les gens sont intéressés de plus en plus à la cuisine, à savoir ce qu'il y a dans leur assiette. Et des livres de cuisine, ben, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles de vie et aussi pour tous les talents culinaires que l'on peut avoir, là, qu'on soit débutant ou expert. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle « Je cuisine avec des images » qui se distingue vraiment par son accessibilité. C'est un livre qui est sans texte ou presse et qui s'adresse à des gens qui ont des problèmes de lecture, qui s'adresse aussi à des enfants, des personnes âgées. Et on en parle aujourd'hui avec la co-auteure de ce livre-là, Anne Perrault. Je vous la présente à l'instant. Anne Perrault, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette. Merci de votre invitation.
Merci d'être là. Vous êtes scientifique du domaine de la santé, fondatrice des ateliers Plaisir et Saine Alimentation, en plus d'être co-auteur de ce livre « Je cuisine avec des images ». Pourquoi avoir eu, bon, on le sait là, quand on lit un petit peu les statistiques, c'est assez inquiétant, c'est assez désolant. Au Québec, 53 % de la population ont de la difficulté, en fait, ont pas un taux de lecture suffisant pour s'épanouir, pour fonctionner adéquatement dans la société. 53 % c'est énorme. Est-ce que ça vient un petit peu de là, ce désir de créer un livre avec plus d'images que de mots?
Pas tout à fait. Je cuisine avec des images a été conçu dès le départ pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle légère. Mais cependant, par extension, notre livre s'adresse à tous les faibles lecteurs, aussi aux débutants en cuisine et puis aux parents avec leurs tout-petits, de sorte que tout le monde puisse mettre la main à la pâte.
Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le livre a été testé avec des gens qui ont une déficience intellectuelle. C'est un petit peu comme ça que vous l'avez construit, le livre.
Tout à fait, parce qu'on voulait réellement répondre à leurs besoins. Alors, le livre a été testé, toutes les recettes ont été testées en cuisine avec la collaboration de 5 personnes qui ont une déficience intellectuelle, 2 femmes et 3 hommes. Les hommes aiment cuisiner autant que les femmes. Ouais. Et alors, chaque recette a été testée. J'ai fait le livre avec la co-auteure Anne Mitchell. Anne Mitchell est une graphiste de formation qui détient aussi un diplôme professionnel en cuisine. Alors, c'est grâce à sa collaboration que le livre a pu être créé, parce qu'après chaque test en cuisine, Anne et moi, nous mettions d'accord pour faire des modifications à la recette. Alors, il s'est agi naturellement d'un processus itératif durant lequel il y a eu beaucoup, beaucoup de modifications, surtout aux premières recettes. Par exemple, la toute première recette qui était celle de l'omelette. Nous sommes partis de zéro pour cette recette-là. Puis il y a eu 12 versions différentes de la recette. Et puis alors, ça veut dire qu'on a cuisiné beaucoup d'omelettes puis qu'on en a mangé beaucoup
aussi.
Vous
en avez cassé des œufs.
On en a cassé des œufs.
C'est quoi les besoins des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle quand il est question de cuisiner?
Leurs besoins, nous avons identifié un grand défi quand nous avons fait le livre, c'est celui des mesures. Des mesures et puis des indications pour le degré de chaleur des boutons de la cuisinière. Alors, les mesures pour les cuillères, si on pense comment ces cuillères-là sont faites, il y a deux systèmes de mesures, le métrique et l'américain. Puis l'américain est en anglais. Alors, pour une personne qui a une déficience intellectuelle, c'est vraiment un défi. Nous avons simplifié à l'aide d'autocollants qu'on appose sur les cuillères. Et puis, on a vraiment simplifié. Alors, on met soupe, thé, 1 sur 2, 1 sur 4. Alors, 1 sur 2, 1 sur 4, c'est naturellement la demi et le quart de cuillère à thé. Mais alors maintenant, pour n'importe qui, lecteur ou non, c'est facile d'identifier ces cuillères. Puis ensuite, on a fait des autocollants pour les boutons des cuisinières. Puis ensuite, un autocollant pour la tasse à mesurer. Ou autour de la tasse, il y a quand même 4 systèmes de mesure très différents.
Et lorsqu'on feuillette le livre « Je cuisine avec des images », on se rend compte que justement, il y a beaucoup d'images. Tous les outils culinaires sont illustrés. Ça, c'était un besoin aussi que vous avez identifié.
Tout à fait. Parce que suivre une recette en lisant un texte puis en cuisinant, c'est un grand, grand défi pour une personne qui a une déficience intellectuelle. Moi, j'ai essayé plusieurs formats de recettes et puis à chaque fois, on se prenait la tête entre les mains, là. Les cuisiniers avec une déficience qui essayaient de les utiliser, c'était un casse-tête pour eux. Alors, l'image... disons, donne une instruction claire de l'étape à faire. Alors, chaque étape du livre est illustrée par une image. Ce qui fait qu'il y a quand même plusieurs illustrations pour chaque recette. La recette la plus courte, celle du brocoli au micro-ondes, elle a 10 illustrations. Puis la plus longue, la sauce à spaghetti, en a 38. Alors, on ne réalise pas toutes les étapes quand on cuisine, mais quand on veut les représenter, il faut vraiment décortiquer et puis mettre deux actions sur la même image. On a réalisé que la personne qui a une déficience intellectuelle en oublie l'une des deux.
Oui. Je l'ai justement sous les yeux, la sauce à spaghetti, Anne Perrault, et puis on voit vraiment, on voit la carotte se faire éplucher, bon, on la voit se faire couper, de quelle façon la couper, l'oignon également, l'eau chaude, l'origan, la petite bouteille d'origan, tout ça, c'est très, très bien détaillé. Et tout ça, Anne, est bien sûr dans... le but ultime de favoriser l'autonomie de ces gens-là. C'était ça, votre souhait?
C'était ça. C'était améliorer l'autonomie alimentaire. Alors, améliorer la qualité de l'alimentation, alimenter l'indépendance par rapport à la cuisine toute faite, au fast-food. C'est des cuisines qui apportent beaucoup de sel, beaucoup de gras, beaucoup de sucre. Selon les aliments. Et puis aussi, qui sont pauvres en fruits et en légumes, pauvres en minéraux, pauvres en fibres. Alors, c'est ce type d'alimentation-là favorise les maladies chroniques, en particulier l'hypertension et le diabète, qui sont des conditions très sérieuses pour la santé.
Donc, il y a des bénéfices pour la santé aussi.
Il y a d'énormes bénéfices pour la santé. Et puis, il y a aussi des bénéfices du point de vue plaisir, parce que bien s'alimenter, c'est un plaisir. Et puis, il y a des bénéfices sociaux, parce qu'on peut partager ce qu'on a cuisiné. On s'enrichit soi-même en développant ses habiletés manuelles.
Des bénéfices financiers aussi. Cuisiner coûte moins cher qu'aller manger au restaurant.
Tout à fait. Tout à fait. Mais encore faut-il savoir gérer son frigo, gérer sa liste d'épicerie. Et puis, c'est des choses qui demandent à être encore travaillées. Il y a des groupes de recherche, par exemple, le groupe du Dr Langevin à l'Université de Montréal qui s'intéresse à ça. Puis je sais qu'à l'Université de Trois-Rivières aussi. Et puis, moi, j'espère éventuellement pouvoir collaborer à ces groupes de recherche-là en tant que personne ressource. Grâce aux observations que j'ai faites depuis 6 ans, là, depuis que je fais des ateliers, en fait, depuis 9 ans, depuis que je fais des ateliers... auprès de personnes qui ont une déficience intellectuelle.
Ben, l'appel est lancé, Anne Perrault. En terminant, je veux revenir sur ces ateliers plaisir et saine alimentation dont vous êtes la fondatrice. C'est quoi les services que vous offrez à travers ces ateliers-là?
Ces services que j'offre, en fait, c'est des services qui sont bénévoles. J'offre des services d'accompagnement à l'occasion dans des groupes scolaires. Ensuite, aux cuisines collectives de mon quartier Beaufaction de Rosemont, j'ai été l'initiatrice avec le responsable Xavier Lewis de cuisine collective à Beaufaction, qui était une première là-bas. Et puis aussi, je suis associée à un projet de recherche à l'Université McGill, un projet de recherche qui va avoir lieu à l'École Summit. C'est une école pour adolescents qui ont une déficience intellectuelle. Ils vont utiliser 6 recettes du livre dans le cadre de leur curriculum. Et il y a des étudiants... finissant la maîtrise en ergothérapie de McGill qui ont un projet de recherche basé sur le livre. Mm-hmm. Alors ça, c'est vraiment excitant. Ça va faire connaître le livre dans le milieu anglophone. Et puis aussi, je pense que ça va nous aider à faire évoluer les recettes et puis probablement à préparer d'autres parce qu'Anne Mitchell et moi, nous comptons poursuivre notre collaboration et puis profiter du langage visuel que nous avons développé là, pour faire des nouvelles recettes.
Et pour mettre la main sur Je cuisine avec des images, est-ce qu'on le retrouve en librairie?
Il est disponible en librairie, d'habitude sur commande, parce que les libraires ne le tiennent pas nécessairement en magasin. Par contre, il est disponible sur commande dans n'importe quelle librairie. Il est disponible dans les bibliothèques. Et le coût est vraiment abordable à $24.95 pour la qualité de graphique.
Oui, oui, oui.
Et puis la qualité esthétique du livre. Nous avons eu des bonnes fées, une illustratrice de talent, Louise Martel, une photographe de talent. Et puis Hélène Laurendeau, qui est communicatrice et nutritionniste, qui a écrit la préface. Hélène Laurendeau, elle est bien connue des médias parce qu'elle est une collaboratrice...
De Ricardo,
dont nous avons adapté une recette, la recette de soupe hamburger.
Oui. Alors, 19 recettes, on le rappelle, qui sont testés sur des personnes qui vivent avec des déficiences intellectuelles. On parle de chili, de sauce à spaghetti, de côtelettes de pain, de brocoli, vapeur, four micro-ondes. Mais ça s'adresse aussi aux familles, aux enfants, si on veut les initier à la cuisine et s'ils veulent cuisiner avec leurs grands-parents, ça pourrait être chouette aussi. Eh bien, c'est une très, très belle initiative, Anne Perrault. Je rappelle, vous êtes scientifique du domaine de la santé, fondatrice des ateliers Plaisir et saine alimentation et co-auteur de ce livre de cuisine, Je cuisine avec des images. C'est publié chez Carte Blanche et on laisse en terminant votre site web lapsa.ca.
Et puis notre page Facebook, Je cuisine avec des images.
Merci Anne.
Merci.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220 et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635 et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Josiane Caron-Santa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ergothérapeute, propriétaire de la clinique d'ergothérapie pédiatrique Les Mille Pattes, conférencière et auteur de cet outil dont on veut parler aujourd'hui, l'outil visuel expert en concentration. Un bon outil peut-être pour les enfants là, qui sont en plein dans la fin de l'année scolaire, les examens, beaucoup de stress. Les enfants sont plus fatigués à cette période-ci de l'année. Hein?
Oui, absolument. Et la concentration, en fait, c'est un réservoir qui s'épuise. Et plus on est fatigué, plus on va avoir de la difficulté à mobiliser les ressources attentionnelles qu'on a besoin pour faire nos devoirs ou étudier pour nos examens, par exemple. Donc, c'est un bon moment pour explorer des nouvelles stratégies ou techniques.
Renforcer les forces
absolument.
Un petit peu.
Absolument, ben oui.
Josiane, d'entrée d'entrée de jeu, on voulait faire la différence entre la concentration et l'attention. Mm-hmm. On peut faire une distinction, je pense.
Un petit peu. C'est deux termes qu'on a tendance à utiliser d'une façon interchangeable. Mais quand moi, je pense à l'attention, je pense à la capacité du corps d'entrer en relation avec l'environnement, donc de prendre conscience de ce que mes sens m'envoient autour de moi ou mon corps. C'est un mm-hmm. peu comme le contraire d'être endormi finalement, où je n'ai pas conscience de rien. L'attention, il y a une partie qui est automatique. Donc, si j'entends un bruit derrière moi, je me retourne. Mm-hmm. Mais il y a une partie aussi qui est volontaire. Par exemple, je veux porter attention à quelque chose que j'écoute. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler d'une attention plus sélective. Donc, je veux focaliser mon énergie sur quelque chose de précis pour l'intégrer parce que ça m'intéresse. Et si je veux faire ça pour une longue période, on va parler d'attention soutenue. Et c'est à ce niveau-là qu'on a tendance à utiliser le mot concentration, c'est d'être capable de rester engagé avec quelque chose pour une longue période.
Mm-hmm. Comment on fait en tant que parent pour savoir si notre enfant a des problèmes de concentration ou un manque de concentration? Mm-hmm. Peut-être que ça serait plus juste.
C'est une bonne question. J'aime moins le mot problème.
Ouais, hein?
Parce que, évidemment, on va peut-être en parler tout à l'heure, il y a des diagnostics qui réfèrent à, par exemple, un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais l'attention, la concentration, c'est quelque chose qui varie à la hausse, à la baisse, naturellement, en fonction de mon état.
De stress, oui. De fatigue, voilà. Les stimuli extérieurs, j'imagine.
Exactement. Si je suis dans ma chambre toute seule et il n'y a pas de bruit autour, j'ai moins de distracteurs, donc ça me prend moins d'énergie pour rester focussée sur ce que je fais.
Oui. Mais est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous dire, OK, oui. Là, il y a peut-être un souci?
Un enfant qui se met à la tâche avec volonté de travailler, mais qui a de la difficulté à rester engagé. Donc, ses yeux vont souvent vers autre chose que son travail. Il va avoir tendance à se lever, à bouger, à lire quelque chose et ne pas se souvenir ce qu'il vient de lire là, tout de suite. Mm-hmm. C'est des signes que l'attention est peut-être faible, peut-être dans le moment présent. Mais si ça se répète tâche après tâche après tâche, c'est quelque chose qui demande peut-être un peu plus d'attention pour le soutenir finalement.
Aujourd'hui, Josiane, on s'attarde particulièrement aux enfants qui sont âgés entre 6 et 12 ans, donc mm-hmm. souvent qui sont déjà à l'école. Donc, travaux, leçons, ça nous indique beaucoup si l'enfant bon, a un souci de concentration. Est-ce qu'on peut le détecter déjà chez des enfants plus jeunes?
Mais plus l'enfant est jeune, plus c'est normal que son attention soit faible. Hein? On pense à nos tout-petits, 18 mois, on ne les garde pas longtemps sur une tâche. Ils sont vite levés, ils sont vite debout. « Ah, maman, je vois quelque chose. » Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, plus l'enfant vieillit, plus on s'attend qu'il soit capable de mobiliser ses ressources attentionnelles pour arriver à faire la tâche qu'il veut faire. Mm-hmm. Il arrive que certains enfants ont certaines immaturités dans leur développement neurologique qui fait que ça reste plus difficile plus longtemps. Mm-hmm. Alors là, il faut s'inquiéter peut-être et consulter un professionnel à ce moment-là.
Ça peut être quoi les impacts d'un manque de concentration, d'attention dans le développement de notre enfant?
Bien, définitivement, sur les apprentissages, si j'ai de la difficulté à me concentrer, je vais avoir de la difficulté à intégrer ce que j'essaie d'apprendre. Un impact aussi sur l'enfant peut se décourager s'il n'arrive pas à arriver au bout de ses tâches ou être satisfait de ce qu'il fait parce qu'il est souvent déconcentré. Il peut voir les tâches plus simples comme un fardeau. Hein? Mon fils, par exemple, il a quelques fragilités au niveau de la concentration, mais il doit copier ses mots de vocabulaire, il y en a 10, et il dit « j'aurais jamais fini, c'est impossible ouais. ». Pourtant, il a 8 ans, et quand il le fait, avec concentration, ça lui prend 5-6 ouais. minutes. Mais il perçoit les tâches plus grandes. Et l'estime de soi aussi peut être fragilisée ben ouais. parce que quand on comprend moins ça comme parent, on peut avoir tendance à dire ben, « concentre-toi plus, focus, force-toi » et penser que tout l'acte de concentration est volontaire. Et parfois, l'intention n'est pas suffisante, les ressources ne sont pas là, que ce soit dans le moment présent ou d'une façon généralisée, il faut s'en occuper à ce moment-là de la concentration.
C'est pas nécessairement de la mauvaise foi de notre enfant s'il n'arrive pas à se concentrer.
Tout à fait, tout à fait.
C'est quoi les causes?
Les causes, quand on parle des diagnostics, hein, un trouble déficitaire de l'attention, par exemple, c'est sûr qu'il y a beaucoup de causes qui vont être liées à la génétique. Mais j'aimerais mieux vous parler peut-être de ce qui influence la concentration dans le moment présent parce que c'est un outil qui est pour l'enfant moyen, la population générale,
et
même,
ça, on le saisit bien, oui,
même
oui.
les adultes. Oui. Donc, qu'est-ce qui affecte la concentration dans les médias? Bien sûr, si j'ai pas bien dormi, si j'ai un niveau de fatigue élevé, si j'ai un niveau de stress élevé, que ce soit une anxiété de performance ou j'ai eu d'autres stress dans ma journée, ça va jouer. L'alimentation, si j'ai eu l'opportunité d'avoir une belle collation sucrée avant mes devoirs, ben c'est sûr que les hormones et tous les petits messagers de mon cerveau ne vont pas fonctionner aussi bien. C'est tous des facteurs qui peuvent jouer. Et la difficulté de la tâche, bien sûr, plus la tâche est difficile, plus la tâche est longue, moins la tâche m'intéresse. Plus ça va me prendre d'efforts pour mobiliser mes ressources attentionnelles et ça va s'épuiser rapidement.
Et bien sûr, Josiane, on peut penser à l'arrivée d'un petit frère, une petite sœur, oui. la séparation des parents, un déménagement,
oui.
tout ça. Hein?
Tous les facteurs qui affectent le quotidien vont affecter la concentration.
Mais ce que je comprends, et ça, je trouve que c'est encourageant pour les parents qui nous écoutent, le manque de concentration et d'attention, ça peut être passager chez notre enfant.
Oui, comme les facteurs dont on vient de parler peuvent être passagers, faut avoir l'espoir. Avec l'âge, ça va s'améliorer. En fait, ce n'est pas avant 8 ans qu'on a atteint un minimum de capacité satisfaisante et ça va continuer d'évoluer jusqu'à au moins 12 ans avant qu'on arrive à quelque chose de plus stable. Donc, il y a toujours de l'espoir pour que ça s'améliore. Ça s'entraîne, la concentration. C'est pas quelque chose de fixe. Et plus on la connaît, plus elle devient notre amie, plus on peut la gérer.
Ouais.
Puis c'est dans ce cadre-là que l'outil vient jouer un rôle.
Oui, l'outil visuel, expert en concentration, c'est publié chez Midi 30. Mm-hmm. Et puis ça peut convenir aux adultes aussi, Josiane, parce que moi, je me suis amusée vraiment à l'observer puis à me dire, ah, j'aimerais bien tester ça. Ça offre des trucs, des stratégies que vous appelez, si je ne me trompe pas, c'est quoi le mot?
Sensorimotrice.
Oui, voilà, je pense que je ne l'aurais pas bien dit. Ça veut dire quoi, ça?
Mais sensorimoteur, sensori va avec sensoriel. Donc, c'est des stratégies qui vont solliciter, mobiliser notre système sensoriel et moteur parce qu'il va avoir des mouvements aussi. D'une façon naturelle, quand l'éveil ou la vigilance baisse un peu, notre corps va prendre ces moyens-là. Hein, par exemple, je vais croiser ma jambe, je vais brasser ma jambe un petit peu en dessous de la table, je vais amener mes mains près de mon visage. Moi, je m'achoue mes crayons. C'est des stratégies qui sont normales et qui aident à monter un petit peu l'éveil. Et quand on fait ces stratégies-là, ça peut être efficace, mais ça peut ne pas être assez. Ou si on le fait inconsciemment, on n'est pas conscient non plus de l'impact. Fait que si je m'arrête et je me dis « Oh, je vois que je suis toujours à ma bouche ou j'ai la bougeotte sous la table », mais c'est peut-être le moment, comme adulte, je vais me dire « Je vais aller prendre une marche, ça va me faire du bien ». On nomme ça et on est un peu conscient que ça va faire du bien à notre concentration, on revient un peu plus tard et on poursuit notre tâche. Mais l'enfant l'est beaucoup moins. Et parfois, les parents sont bien partis, ils disent à l'enfant « Va faire le tour du bloc. Va faire un tour de vélo, tu reviendras plus tard, ça va mieux aller. » Mais c'est intéressant que l'enfant devienne un peu plus...
autonome, peut-être.
Autonome et impliqué dans tout ça. En disant, penses-tu que si tu vas faire un tour de vélo, ta concentration va remonter? Parce que là, tu l'as beaucoup épuisé. Je vois que tu as fait beaucoup d'efforts. Et l'outil, en fait, est une affiche, une petite affiche qui ressemble à un menu de restaurant.
Oui, c'est vrai.
Un peu comme ça. Fait que si je vais au restaurant, je me pose des questions sur mon besoin. Hein? Est-ce que j'ai très faim, premièrement? Est-ce que j'ai plus envie du steak ou d'une salade? Quelque chose de plus léger ce soir? Fait que c'est un peu la même chose. On s'arrête avec l'enfant et on lui dit, je crois que la qualité de ta concentration est un peu faible en ce moment. Et ton corps semble... Et évidemment, l'enfant peut devenir de plus en plus autonome pour remarquer ce qui se passe exactement, mais le parent peut dire « Je trouve que ton corps veut bouger.
Oui. »
Alors voici, regarde dans le menu, y a-t-il quelque chose qui te tente d'essayer? Et là, ils sont tous codés par sens. Hein? Donc,
oui, ça touche tous les sens, toucher, le goûter, tout
exactement.
À fait. Donc, c'est pour tous les goûts, tous les besoins, en effet.
Si on est dans le mouvement, on regarde une certaine couleur et on peut choisir et essayer quelque chose et mesurer l'impact après. Est-ce que ça a marché? Non. Bien, peut-être qu'on a besoin de le faire plus fort, plus longtemps ou une autre stratégie. Et en fait, c'est un point de départ. Peut-être que les stratégies qui vont vraiment marcher pour un enfant ne sont pas celles-là, seront d'autres stratégies qui fonctionnent bien pour lui. Dans l'outil, on a mis celles qui sollicitent le moins d'équipement ou qui sont le plus faciles à faire.
Oui. Et peut-être qu'un soir, pour les leçons et les devoirs, ça va fonctionner, puis le lendemain, la même chose ne fonctionnera pas, Josiane.
Puis c'est pour ça que mobiliser l'enfant à prendre conscience de sa concentration est si important, parce que c'est pas toujours pareil, il n'a pas vécu les mêmes choses et il ne sera pas face à la même tâche.
Donc, pour donner de petits exemples, et moi, je trouvais ça étonnant, comme par exemple manger des aliments qui sont croquants sous la dent, des carottes, par exemple, ben ça peut aider l'enfant à demeurer concentré, ou encore, si on fait encore allusion au goûter, à ce sens-là, les glaçons sous la langue, quelque chose de froid, peut ramener l'enfant à se concentrer. Il y en a d'autres également, Josiane.
Oui, on peut manipuler quelque chose. Hein? C'est souvent ce qu'on voit chez les enfants. Arrête de toucher à ton efface. Touche à ton devoir. Tu touches à tout. On a tendance à vider le bureau. Mais si on est un peu plus conscient, on peut se dire, regarde, tu as une balle de stress ou un objet, parfois juste un bout de ficelle. Et suffisant quelque chose à manipuler. Je vois en ce moment, vous manipulez votre crayon.
Oui, c'est
peut-être
vrai.
Que ça, inconsciemment, ça aide à mobiliser votre concentration. Puis... Le pinceau
sur les mains également.
Oui, ça fait comme un petit massage qu'on peut contrôler. Et en fait, toutes les stratégies qui ont été choisies ont une base neurologique, si on veut. Il y a une raison qu'elles mobilisent quelque chose. Les pressions profondes vont sécréter certaines hormones qui vont déclencher, par exemple, un effet excitant ou calmant dans le système nerveux pour aider à régulariser l'attention.
Et bien sûr, on s'assure, j'imagine, d'un endroit tranquille, télé fermée, pas le petit frère ou la petite sœur qui crie à côté. Tout ça, c'est des facteurs importants aussi.
Oui, l'environnement est important, mais pas exactement ce que vous venez de dire à tous les coups. Ah. Parce que chaque enfant est différent, chaque enfant a son profil. Moi, par exemple, quand je dois me concentrer, j'aime beaucoup aller dans un café. J'ai besoin de bruit autour. Mm-hmm. J'ai trop de silence, j'ai tendance à me perdre dans d'autres pensées intérieures. Puis c'est la même chose pour certains enfants. Mes enfants préfèrent être dans la cuisine avec moi qui fais la vaisselle que dans leur chambre seule. Et la tâche aussi. Si j'ai une tâche qui est plus longue et monotone, par exemple une page d'addition, soustraction à faire, je vais probablement la réaliser plus facilement avec de la musique et de l'action autour qu'une tâche de résolution de problème où je dois me concentrer à ce moment-là, l'environnement plus épuré va fonctionner mieux. Donc, ça dépend.
Oui, ça dépend. Et j'imagine, Josiane, avec le temps, on observe notre enfant, on apprend à le connaître, à voir aussi, et lui aussi, hein, parce que c'est ce que cet outil-là, et c'est ce que vous nous disiez, l'enfant doit aussi, à quelque part, à un moment donné, se responsabiliser par rapport à sa concentration, son attention, et apprendre à se connaître. Donc, un bon outil pour, oui, se concentrer et être plus attentif, mais apprendre à se connaître aussi. Vraiment formidable. Je vais le proposer à une amie, expert en concentration. Donc, cet outil visuel, c'est publié chez les éditions Midi 30. Josiane Caron-Santa, vous êtes ergothérapeute et propriétaire de la clinique d'ergothérapie pédiatrique Les Mille Pattes. Est-ce que j'ai l'adresse? Oui, www.ergomp.com et également conférencière et auteure de cet outil visuel. Merci beaucoup. Ça a été très, très éclairant. Je pense que ça aidera les parents là, et avec leurs enfants, les accompagnent à travers cette fin d'année scolaire.
Merci.
Merci. Rémi Hermoso à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17h et qu'il y a différents moyens d'entrer en communication avec nous. Par téléphone, 1-800-361-0635, poste 220, mpaquette@vusezvoix.com. On se donne rendez-vous demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien, profitez du soleil aussi, il fait beau. Bye-bye.